Les pieds sur terre, quartier d'été, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Il y a eu récemment à Nîmes ces jeunes gays piégés sur une appli de rencontre, puis frappés et dépouillés. Ces deux autres couples homosexuels aspergés d'eau de Javel et de peinture noire lors d'une braderie à Lille. Un jeune homme séquestré, insulté et roué de coups à Rouen. Des agressions contre des homosexuels à Poitiers, Besançon, à Lyon, place Bellecour et à Paris, évidemment. Il semble que pas un jour ou une semaine ne se passe sans son lot de violences homophobes, de photos de visages défoncés circulant sur les réseaux sociaux. Difficile de savoir pourtant s'il s'agit d'une augmentation récente et terrifiante des violences homophobes ou si cette exposition médiatique d'agressions insoutenables est seulement, si j'ose dire, une libération de la parole, le signe que le silence et la honte ne sont plus de mise. D'après le ministère de l'Intérieur, les dépôts de plaintes pour agressions homophobes ont bien augmenté de 15% depuis le début de l'année par rapport à la même période l'année dernière. Il en va de même sur les lignes d'écoute associatives qui ont vu leur nombre d'appels en augmentation. Mais les chiffres des agressions établies par SOS Homophobie ne sont pas encore disponibles pour le premier trimestre 2018. Pour cette association, citée par Le Monde, la poussée homophobe dans les discours et les actes est pourtant bien alliée au débat actuel sur l'extension de la PMA à toutes les femmes. On ne veut pas revivre la vague de haine de la Manif pour tous, s'inquiète Joël Demier, qui est le président de cette association au sein du même quotidien. À cette période, les actes homophobes avaient en effet augmenté de 78%. Le 30 octobre de cette année, le gouvernement a d'ailleurs répondu à ces inquiétudes en proposant une série de mesures pour lutter contre la haine et les discriminations homophobes. Tout de suite, dans les pieds sur terre, sans réponse précise à la question des chiffres, on se dit que s'il n'y en avait qu'une, ce serait déjà une agression inacceptable qui mériterait toute notre attention et celle du gouvernement, comme on l'entend dans ces récits recueillis par Rémi Douate.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Aujourd'hui, j'ai 30 ans et je ne pensais pas qu'à l'heure actuelle, je revivrais ce que j'ai vécu il y a environ 15 années de ça. J'ai 12 ans et ça fait déjà un petit moment que je me rends compte que je suis attiré par les garçons. Évidemment, je peux pas en parler chez moi, je peux pas en parler à mes parents, parce que déjà, j'entends au travers les portes et dans les discussions de famille, mon père qui dit « les tatas », parce qu'on les appelle comme ça dans la famille. Les tatas, si un jour mon fils revient avec un mec, je le fous dehors. Et au collège, en dehors du foyer familial, je décide d'en parler. Et évidemment, ça ne passe pas du tout. Je me suis fait insulter, je me suis fait taper. Un jour, on m'a coincé contre un mur, on m'a retiré mes chaussures. On a retiré mon sac, on a retiré mon vêtement, et puis on m'a appelé Zaza. La cage aux folles passait souvent à la télévision à cette époque-là. Et c'était très très difficile, j'ai pensé évidemment à mettre fin à mes jours. Il y avait un pont qui traversait une route pour pouvoir accéder à ce collège. Et puis un jour j'étais sur ce pont, et je me penche un peu pour regarder les voitures. Passer en me disant je fais quoi, je saute pas. Et là il y a trois mecs qui arrivent, je me dis oh, c'est pas vrai. Et ces trois garçons m'ont attrapé, m'ont déshabillé, ont commencé à me donner des coups de poing, des coups de pied, me mettre à terre, jusqu'à me faire pipi dessus. Alors évidemment, chaque soir quand il fallait me coucher et quand je me relevais le matin, j'avais une grosse boule dans le ventre et je voulais pas partir à l'école. Et je quittais ma maison, et je croisais les doigts, et je priais le Seigneur, parce que je viens d'une famille qui était assez catholique, j'ai communié, etc. Et je priais le Seigneur pour qu'il essaie de me guider, et qu'il essaie de donner des réponses à mes questionnements. Et puis ça recommençait. Et j'ai développé une haine profonde de l'école et du système scolaire. Donc j'ai pas tenu. En tout cas, j'ai quitté l'univers scolaire. Et là, j'avais 16 ans. Et puis à 16 ans, j'ai écrit des tas de lettres où je parlais de mon homosexualité, de mon mal-être, etc. Et je disais un jour, vous découvrirez ces lettres et c'est comme ça que vous apprendrez que je suis gay. J'ai laissé ces courriers cachés, bien cachés, dans différentes pièces de ma maison. Et un jour, ma mère, en faisant sans doute du ménage ou en rangeant, elle est tombée sur une de ces lettres. Et voilà, et à 16 ans... ma mère et mon père qui me disent « mais c'est une maladie, ça se soigne, c'est un problème psychiatrique, psychologique, il faut aller voir un psychiatre, il faut aller voir un rebouteux, il faut aller voir le curé, etc. » Mon père était blanc, était vert, il passait par toutes les couleurs, au fond du canapé, il avait ce regard à la fois outré, choqué, honteux. Et cette soirée, elle a été extrêmement difficile. J'avais le ventre en compote, j'étais en sanglots, j'étais tétanisé, c'était violent, on s'est engueulé. Et puis après, on s'est terré dans le silence, et puis le lendemain, j'ai dormi chez eux, je crois que j'ai pas mangé. Et le lendemain, je suis reparti. Et je suis très peu revenu chez mes parents ensuite. Je suis parti définitivement à Rouen, sans établissement scolaire. J'ai erré, on peut dire que j'étais SDF, j'errais de lieu en lieu, comme ça, avec un sac à la main, en lavant mes slips et mes t-shirts dans l'évier. Je me débrouillais, je me faisais nourrir de gauche et de droite, je me faisais inviter au théâtre, je me faisais inviter au cinéma, j'ai développé un réseau comme ça. Puis petit à petit, l'homophobie, elle est passée. Voilà, donc ensuite, 15 ans s'écoulent et je ne souffre plus un seul instant de l'homophobie. Je ne ressens absolument aucune haine portée sur moi. Et voilà, on est en 2018. J'ai 30 ans, j'ai passé 10 ans de ma vie à Rouen, à travailler dans le milieu du cinéma, j'ai créé 2 festivals, j'ai fait des films, etc. J'ai 30 ans, je décide de rentrer à Dieppe. J'ai la maturité pour ça. J'ai un compagnon. Je suis stabilisé. Je fais plein de choses. J'ai 30 ans et là, je sors un soir de mon bureau. Il est minuit. Je passe par une petite rue qui s'appelle la rue du 19 août 42 en direction de la place du Puy-Salé. Et là, j'ai ces chaussures qui sont peut-être un peu excentriques pour Dieppe. J'ai un parapluie qui est peut-être pas très masculin, parce que j'ai pris le parapluie qui traînait. Et je chantonne avec Alexis, mon ami, une chanson de Diane Tell. Et là, il y a 2 types qui sont au coin d'une rue perpendiculaire à la rue du 19 août 42. On passe, ils nous regardent chantonner. Et je sens dans leur regard, je sens en un quart de seconde la haine que j'ai ressenti quand j'avais 15 ans, dans le regard de ceux qui m'ont violenté. Je l'ai senti, et ça faisait 15 ans que je ne l'avais pas ressenti. J'avance, en continuant de chantonner ma chanson, toujours accompagné de mon ami, et là on reçoit des briquets dans le dos. Alors moi qui suis un non-violent, je me retourne à peine, et je continue d'avancer doucement, en rentrant mes épaules et en baissant ma tête. Là, ils nous appellent. Et là, ils nous disent « Qu'est-ce que tu veux, là? Tu me dragues, là? Qu'est-ce que tu veux, là ?» Et on leur dit « Bah rien, rien, on vous veut rien. Et tout va bien, enfin, ça va, on chantonne. On rentre chez nous, ça va, enfin, il n'y a pas de problème. » Puis on continue d'avancer. Et là, ils sont de plus en plus violents. Et là, il y en a un des deux qui donne un coup de poing au visage à Alexis, mon ami. Donc là, quand on sent que ça commence à devenir vraiment violent, on prend la fuite. Moi, j'avais un gros sac rempli de dossiers, rempli d'affaires personnelles sur le dos. Je cours, Alexis court beaucoup plus vite que moi, mais moi, je ne cours pas assez vite, en plus, je suis cardiaque. Ce qui fait qu'ils me rattrapent. Et là, ils ont commencé à me laminer sur place. Ils étaient deux, coup de poing au crâne, au visage, sur le torse, coup de pied dans le dos, coup de pied dans les côtes. Je suis tombé au sol, évidemment, je saignais de la bouche, du nez. J'ai cru que j'allais mourir. Vraiment, j'ai vu ma mort arriver. Et je me suis dit, ben voilà, 15 ans se sont écoulés, et 15 ans après, je vais mourir pour les mêmes raisons qu'ont failli me faire mourir il y a 15 ans. Et là, Alexis, qui était parti plus loin, est revenu vers moi, voyant que j'étais en détresse et que j'arrivais pas à me relever. Et il a appelé la police, évidemment. Et les deux gars, ils se sont éloignés et ils nous ont regardés en riant. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? La police arrive très vite. La police, d'ailleurs, pas forcément très chouette. Mais quand je leur dis, dans mon témoignage, que c'était de l'homophobie, qu'ils nous ont traités de gays et tout, vous croyez vraiment ? Non, voilà ce qu'ils me disent, la police. Et après, les pompiers arrivent très vite, ils m'emmènent, je vais aux urgences. Et là, évidemment, je me retrouve dans un milieu où je revois l'infirmière du lycée à qui j'arrive pas à parler de mes problèmes. Je revois le médecin à qui j'arrive pas à dire pourquoi, quoi. Et bon, je finis par leur dire ce qui m'est arrivé. Et pareil, vous êtes sûr, vraiment, vous êtes sûr que c'est de l'homophobie ? Oh, quand même. Et là, bah, évidemment, j'ai... deux fractures au crâne, une fracture dans le sinus, j'ai des chocs traumatiques au niveau du dos, j'ai toujours le haut de ma cuisse paralysé, c'est-à-dire que je peux toujours taper dessus, là aujourd'hui je la sens toujours pas. Donc je suis hospitalisé et voilà, je dois trouver le repos. Il a fallu attendre ma déclaration à la police, que j'ai dû faire une semaine plus tard parce que j'étais complètement incapable de me lever. Pour que là, je tombe sur un enquêteur génial qui a tout de suite compris mon problème, qui a tout de suite compris qu'effectivement, ça devait être un acte homophobe et qui n'a rien lâché dans l'enquête. On a appris, quelques jours plus tard, que deux autres garçons, un couple d'une quarantaine, cinquantaine d'années, se sont fait agresser de la même façon qu'Alexis et moi, 2 heures avant moi, 2 heures avant nous, dans le même quartier, et visiblement aux descriptions physiques, par les deux mêmes individus. Et bon, les policiers, voilà, l'enquête s'est faite, les policiers les ont retrouvés, les ont arrêtés, ils ont été placés en garde à vue, il y a eu une confrontation qui a été douloureuse. Ils n'ont jamais avoué qu'ils étaient homophobes, mais c'était clairement de l'homophobie. Et le jour du jugement, ils ont continué à nier que c'était un acte homophobe, tout en nous insultant de pédés. Ils ont pris 1 an de prison ferme et 6 mois de prison avec sursis, chacun.
Merci à toutes d'avoir répondu à l'appel pour dire non à l'homophobie et à sous toutes ses formes, à la violence grandissante partout en France.
Au travers de cette mobilisation, c'est non seulement une communauté, mais c'est toute une population qui appelle à dire non à la haine. Il n'est plus acceptable qu'en 2018, des couples doivent se cacher, parfois même au sein de la sphère privée, pour espérer vivre heureux.
C'est pas compliqué, ce qui est arrivé à Romain, c'est que dans la nuit du 24 au 25 octobre, il s'est fait séquestrer dans une voiture, frappé. Son calvaire a duré plusieurs heures avant qu'il se fasse voler et qu'il réussisse enfin à se réfugier dans une banque où on lui avait demandé de retirer encore de l'argent au guichet. Son histoire commence d'abord en boîte de nuit où il a rencontré 2 personnes avec qui ça s'est très bien passé. Il a voulu finir la soirée avec eux et en fait ils l'ont coincé dans leur voiture et voilà. Donc on va peut-être pas retracer trop son calvaire, parce que c'est vrai qu'il a encore du mal même lui-même à en parler. Voilà, mais ça c'est pour le contexte. Il n'est plus à l'hôpital, mais je sais qu'il a eu plus de 10 jours d'ITT. Son incapacité de travail est totale. Et donc voilà, il est chez lui, mais il peut rien faire quoi à l'heure actuelle.
Cette violence directe et indirecte, permanente et insidieuse, doit cesser. Nous n'en pouvons plus. Nous tous, aujourd'hui, réunis, avons pris conscience de la situation, de peur que chacun, chacune peut ressentir.
C'était en mars dernier, les premiers jours de printemps. Le matin, on est été allé à une séance au Louxor, enfin l'histoire sans fin. Et comme il faisait beau, bah, du coup, on avait décidé de revenir en marchant jusqu'à au moins Place de la République pour choper le bus. Et voilà, du coup, on a redescendu le boulevard, il faisait beau, on s'est acheté des tulipes, on avait toutes les deux un bouquet de tulipes offert par l'autre dans les bras. Et on a vu passer le bus. Enfin, ce qui est ironique, c'est qu'on a couru voilà, pour rattraper le bus un arrêt avant République. Et quand on monte dans le bus, on est essoufflé, on est trop contente et on a avec nos bras pleins de tulipes quoi. Et puis on se fait un bisou. On était tout devant et il y avait cette dame et cet homme à côté. Ils parlaient d'hôtel et moi j'écoutais pas, c'est leur conversation. Ils parlaient d'hôtel. Et en fait, une fois qu'on arrive à République, là ils disent c'est à cause de vous, c'est à cause de vous qu'on descend. Moi je fais quoi ? Enfin, je savais même pas qu'ils s'adressaient à moi en fait. Je comprenais pas là du tout. Mais ça m'est pas venu à. J'ai pas du tout compris que c'était à cause de nous, que ça pouvait être à cause d'un bisou, que ça pouvait. Enfin voilà, j'étais pas concernée en fait par le. Par, ok, on descend à cause de vous, enfin c'est quoi le problème, qu'est-ce qui se passe là, et c'est là que je comprends, c'est quand l'un des deux il dit ouais, vous êtes dégoûtante, vous devriez aller à l'hôtel, regardez, il y a des hôtels juste là. Et il commence à sortir, et puis bah, du coup ma copine ça l'a énervée, enfin elle leur fait un signe de la main en mode au revoir quoi. Et là la femme revient. Juste au pas, vous savez, complètement déterminée vers ma copine. Mais elle s'arrête à un mètre, quoi. Et là, elle lui crache dessus. Ben, moi, j'étais dans l'indignation, en fait. Enfin, qui fait ça? Donc, je fais un pas en avant pour dire, mais ça va pas. Et là, j'ai été tirée vers l'avant par les cheveux. Et du coup, et elle m'a tirée par les cheveux comme pour me sortir du bus. Sauf qu'arrivé à la porte, en fait, il y avait là son compagnon. Et lui, en fait, il barrait la porte. Du coup, je me suis pris, quoi, le gars. Du coup, elle m'a lâché. J'ai poussé le mec dehors. Et il y a une autre personne du bus qui m'a aidé à les pousser tous les deux, quoi, hors du bus. Et après, il y a quelques personnes qui se sont demandé si ça allait. J'ai réalisé que j'avais plus mes lunettes sur le nez et j'ai vu un bras se lever avec mes lunettes. Je sais, ça, c'était drôle. Et puis après, il y avait ma copine qui était pas bien, qui pleurait. Et voilà, quoi, c'était fini. Aussi rapide que ça.
France Culture, les pieds sur terre.
1, 2, 1, 2, c'est bon. Donc, on va pouvoir commencer à mettre en place la chaîne solidaire. L'objectif, c'est de relier la rive droite, la rive gauche. On est d'accord ? Alors, est-ce que vous êtes partant pour cette chaîne solidaire pour dire non à la haine ?
Oui !
Merci.
Ça s'est passé le mardi 18 septembre 2018, entre 22h10 et 22h30, à peu près.
Tout le monde contre le pont ! Tout le monde contre le pont !
On est dans le 20e arrondissement, à côté du parc de Belleville.
C'est magnifique, hein ?
On était allé voir avec mon compagnon une pièce de théâtre. Et en sortant du théâtre, on prend l'air, on discute. Et au cours de la discussion, on se fait un câlin. Et juste après qu'on se soit reséparés du câlin, on entend des insultes qui arrivent un peu plus loin, une vingtaine, trentaine de mètres. Un groupe de 3 jeunes qui sont là-bas et qui nous ont vus faire ce câlin. Et qui nous le reproche, en fait. Donc, qui nous insulte. On décide de ne pas les écouter, de les ignorer. Et ils se rapprochent. Donc, ils se mettent face à nous, ils recommencent leurs insultes, et ils nous demandent ce qu'on a fait, ils nous demandent si on est homosexuel, si on est... Enfin, En d'autres termes, il nous demande si on est pédé, si c'est dégueulasse ce qu'on vient de faire. On leur répond poliment, on refuse de céder à tout ce qu'ils nous demandent en fait, c'est-à-dire qu'ils nous demandent de partir, de quitter le quartier parce qu'il n'y a pas de PD chez eux. Et à ce moment-là, ils nous menacent en nous disant qu'ils vont appeler des potes pour nous casser la gueule. Nous, sur le moment, ça ne nous fait pas peur parce qu'on se dit que c'est trois gamins, trois adolescents qui vont se lasser au bout d'un moment. Et de fait, ils se lassent, ils repartent. Sauf que, manque de bol pour nous, les renforts qu'ils voulaient appeler arrivent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que d'abord, il y a un quatrième qui arrive, qui est un petit gamin d'une 13-14 ans, qui redemande ce qui s'est passé à ses amis. Donc, les trois reviennent vers nous. Là, à nouveau, un flot d'insultes des quatre. Et quelques secondes après, un scooter qui passe dans notre dos. Donc, le petit qui a 14 ans siffle le scooter, lui fait trois fois le signe de l'égorgement en nous pointant du doigt entre les signes de l'égorgement. Le scooter fait demi-tour parce qu'il a bien compris qu'il fallait qu'il nous règle notre compte sans savoir pourquoi. Les deux du scooter descendent. Le conducteur demande ce qui se passe. Ses amis lui expliquent que c'est des PD qui se sont embrassés, que c'est dégueulasse et qui ne veulent pas quitter le quartier. À ce moment-là, le conducteur du scooter nous demande de partir. On refuse de partir. Il retire son casque, il le maintient par la sangle, il nous menace avec son casque, on refuse toujours de partir, et là, les coups commencent. Le conducteur me donne deux coups de casque au visage, pendant que ses amis me donnent des coups de pied dans le bas du dos, le milieu du dos, et le plus haut possible jusqu'au niveau des épaules, puisque du coup, sous les pressions des coups, je me plie en deux. À ce moment-là, moi, j'ai l'arcade qui s'ouvre, il y a du sang de partout. Les spectateurs qui étaient dans le théâtre voient ce qui se passe à l'extérieur, sortent en courant et en criant, ce qui les fait fuir. Des spectateurs me mettent à l'abri dans le théâtre pendant qu'on appelle les pompiers et les policiers. Et le petit groupe reste, en fait. Ils ne fuient pas vraiment, ils restent à une vingtaine de mètres et ils ne partiront vraiment qu'avec l'arrivée de la police et des pompiers 4 minutes plus tard. À ce moment-là, en fait, je suis boosté par l'adrénaline et je suis en colère. Je me rends pas compte de la gravité sur le moment de la blessure que j'ai. Et je suis en colère parce que je suis en colère aussi contre moi-même. Enfin, je suis en colère contre eux, mais je suis aussi en colère contre moi-même sur le moment parce que j'ai pas réagi comme je pensais que j'allais réagir. C'est-à-dire que l'homophobie, c'est un truc... l'homophobie violente, c'est un truc avec, contre lequel... On se prépare avec mon copain depuis longtemps. On s'est toujours dit avec mon compagnon qu'on allait se faire agresser un jour. Pourquoi ? Parce qu'on a fait le choix de vivre comme un couple hétéro. C'est-à-dire de faire ce qu'on a envie de faire dans la rue. Si un couple hétéro se tient la main dans la rue, quand ils ont envie de se tenir la main, alors nous aussi on a le droit de le faire. Donc, on avait décidé de vivre normalement, de ne pas être provocant, de ne pas en faire des caisses, mais de, si l'envie est là, de le faire. Et on savait que ça nous mettait en danger. De ne pas se cacher, de ne pas avoir honte, ça nous mettait en danger. Moi, j'ai un ami qui s'est fait agresser à Lille il y a maintenant 2 ans et demi, 3 ans. J'ai un autre ami qui s'est fait agresser à Paris au mois de mai en pleine rue, tout seul, de nuit. Et un troisième qui s'est fait agresser en province, c'était au mois de juillet. Pour ces trois agressions-là, il n'y a aucun doute sur le fait que c'était homophobe parce qu'elles ont tout le temps été accompagnées d'insultes homophobes et de menaces. Et c'était vraiment en lien avec l'homosexualité de mes amis. Donc en fait, on se disait, ça se rapproche. Un jour, ça va tomber sur nous. Et du coup, on en parlait régulièrement avec mon compagnon de quelle serait la meilleure attitude à adopter pour faire face. Et une semaine avant, pile poil une semaine avant, sous la douche, j'y repensais et je me disais, il faudra que tu cries. Le seul moyen, en fait, c'est de crier le plus fort possible pour leur faire peur et pour alerter le plus de gens autour. Et ben, j'ai pas crié. C'est-à-dire que sur le moment, Je vois pas le danger arriver, je suis calme parce que je pense qu'ils vont pas aller jusqu'au coup, que ça va être juste un flot d'insultes. Et au moment où les coups arrivent, c'est un déchaînement. C'est, il y a 6 personnes qui sont en cercle autour de moi, qui m'empêchent de partir, 4 qui me frappent. En fait, la seule chose que je peux faire, c'est me protéger le maximum pour limiter les dégâts et faire en sorte de ne pas tomber au sol. Rester debout. Vraiment, c'est le seul truc que je me dis, il faut que tu restes debout. Et j'arrive pas à crier. Et en fait, s'il n'y avait pas eu cette quinzaine de spectateurs dans le théâtre, je sais pas dans quel état je serais et dans quel état mon compagnon serait à ce moment-là.
C'était Les Pieds sur Terre, quartier d'été, avec Violence homophobe, un reportage de Rémi Dibowski-Douat, réalisé par Alexandra Longuet, avec Un coup de main de David Jacubovies. Merci à Alice, Arnaud, Nicolas, Mathilde Guermont-Pré, Marc Andevelde et Clémence Alézard. Ce reportage a été diffusé pour la première fois le 11 novembre 2018. Merci aussi à Sandrine Chaperon, Camille Richir et Sarah Giroux.